Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Il ne faut pas grand-chose pour que s'installe la magie du théâtre. Deux chaises hautes, devant deux pupitres, quelques spots de lumière, une comédienne et un accordéoniste qui, pendant un peu plus d'une heure, nous font entendre la beauté, l'acuité et la troublante actualité des mots du dramaturge, écrivain et poète allemand Bertolt Brecht. L'exil, la guerre, la misère, la condition des femmes, le poids de la morale et évidemment le théâtre. Ariane Ascaride et David Venitucci partagent avec leur public les émotions, les engagements, l'humour aussi de ces poèmes, parfois chantés, qui en sortant de la salle restent longtemps en nous, peut-être pour toujours. Le spectacle est à l'affiche du Théâtre du Lucernaire à Paris. Il s'intitule « Du bonheur de donner » et vous m'en direz des nouvelles.
Grand bonheur, c'est donner à ceux dont la vie est plus dure et léger de ses mains joyeuses, distribuer les beaux présents. Aucune rose n'est plus belle que la face de qui reçoit quand il baisse en joie ses mains remplies. Le plus grand bonheur, c'est donner à ceux dont la vie est plus dure et léger de ses mains joyeuses distribuer les beaux présents. Rien ne fait la joie si totale que d'aider, aider tout le monde. Si je donne ce qui est mien, ne peut me plaire plus longtemps.
Bonjour Ariane Ascaride.
Bonjour.
Bonjour David Venitucci.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là et merci de nous offrir en live ces grands moments de votre spectacle avec la complicité côté RFI de Mathias Taylor que je remercie également. Alors très souvent au théâtre, un spectacle commence par une rencontre. La vôtre, Ariane Ascaride, avec Bertolt Brecht. Mmh. Comment s'est-elle déroulée, cette rencontre ?
Ah, c'est une rencontre qui remonte à loin, parce que, en fait, quand j'étais môme, ma mère m'avait emmenée au théâtre voir une dame qui chantait, qui s'appelait Pia Colombo. Et dans son tour de chant, elle chantait une chanson qui disait « Quand on fait son lit, on se couche ». Et j'avais... cette chanson avait énormément vibré en moi, je ne sais pas pourquoi, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était cette chanson. Des années et des années plus tard, je suis rentrée au Conservatoire de Paris et je suis rentrée parce que je voulais être dans la classe de deux hommes. Hein, il s'appelait Antoine Vitesse et une autre qui a été pour moi très important, très très important, qui s'appelait Marcel Bluval. Et puis dans le cadre des cours, Marcel Bluval a dit un jour qu'on allait travailler sur Le Petit Mahagoni de Bertolt Brecht et qu'il y avait des chansons à chanter et... d'un coup, j'ai découvert que la chanson que j'avais entendue quand j'étais petite, elle était là-dedans. Et puis, il faut dire aussi que Brecht, je l'avais un peu découvert alors là, en écriture, dans ses pièces. Et je suis rentrée au Conservatoire de Paris avec la bonne âme du Sichuan. Je suis sortie du Conservatoire de Paris avec la bonne âme du Sichuan. C'est un auteur qui... je ne sais pas comment vous expliquer.
Il vous accompagne depuis le début.
Oui. Ouais. Ouais. Mais vous savez, c'est... je pense que je me dis, si je l'avais connu, je me serais disputée tout le temps avec lui.
Ah, pour quelle raison ?
Parce que après, j'ai beaucoup travaillé sur Bertolt Brecht et comment il était. Je pense que dans la vie, il n'était pas si simple que ça. Et aussi, les gens que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup, souvent, je me dispute avec.
Alors, vous parliez de Marcel Bluval à l'instant, grand metteur en scène. Quel souvenir gardez-vous de lui en tant que professeur de théâtre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris?
Je crois que nous avons eu beaucoup de chance d'avoir ce professeur-là. D'abord, c'était un homme très fédérateur. Et il a fait de notre classe une bande, puisque voyez-vous, je continue à travailler après dans les films de Guy Digan avec un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Daroussin, où ce spectacle-là que nous faisons, on a eu une collaboration artistique avec un garçon qui s'appelle Patrick Bonnel, qui était aussi mon camarade de classe. Et Marcel était un homme d'une culture et d'une intelligence profonde, mais qui avait aussi un rapport très concret à la réalité. Et il avait un côté un peu bourru comme ça, mais en fait, c'était un homme très fin et il voyait très très bien ce qu'étaient ses élèves. Et je pense qu'il nous a laissé une marque indélébile, tout simplement.
Et c'est à lui que vous avez choisi de dédier ce spectacle du bonheur de donner. Alors, qui dit Brecht dit aussi écrit sur le théâtre, et vous avez parsemé le spectacle de quelques passages sur le théâtre, comme celui que vous allez partager avec nous maintenant. Il s'intitule « Deux conducteurs
». Interrogé sur le mode de travail de deux hommes de théâtre, M. K les compara de la manière suivante. Je connais un conducteur qui connaît bien les règles de la circulation, qui les respecte et qui sait les utiliser à son profit. Il s'y entend à merveille pour foncer à toute allure, puis à nouveau pour garder une vitesse régulière afin de ménager son moteur, et ainsi il se ferait son chemin avec prudence et hardiesse entre les autres véhicules. Un autre conducteur de ma connaissance procède autrement. Plus que son propre trajet, c'est l'ensemble de la circulation qui l'intéresse, et il a le sentiment de n'être qu'un élément de celle-ci. Il n'exerce pas ses droits, il ne se met pas en avant personnellement. Il roule en pensée avec la voiture qui le précède et celle qui le suit, en prenant constamment plaisir à voir avancer toutes les voitures. Et qui plus est, les piétons.
Et qui plus est, les piétons. Alors, je suis obligé de vous poser la question, Ayaan Askari, vous n'êtes pas un homme, mais une femme de théâtre. Quel genre de conductrice êtes-vous?
Je crois que je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je crois que ça va, j'ai quand même un certain âge maintenant et que les gens savent à peu près comment je suis. Est-ce que les choix que j'ai toujours faits, effectivement, je n'ai jamais fait de choix de carrière. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Ce qui m'intéressait, c'était de faire des choses avec des gens que j'aime, des gens que je respecte, des gens pour qui j'ai de l'admiration dans leur travail, et faire des choses ensemble. Vous savez, c'est un mot que j'aime beaucoup, ensemble. Donc voilà, je suis une fille comme ça.
L'autre conducteur, si j'ose dire, sur le plateau du Lucernaire, c'est vous, David Venitucci, avec votre accordéon. On pourrait dire que vous accompagnez Ayaan Askari, mais c'est plus qu'un accompagnement, en fait. Vous avez tous les deux une vraie complicité, vous formez un vrai duo, et pour reprendre le titre du spectacle, on sent que vous avez tous les deux justement ce bonheur de donner. Pour continuer avec la métaphore du conducteur, pour continuer avec la métaphore routière, comment avez-vous croisé le chemin d'Ariane Ascaride?
Alors Ariane, c'est Patrick Bonnel qui a fait le lien entre Ariane et moi. Ariane est venue nous voir dans un petit lieu qui s'appelle Le Connétable. Je travaille avec une chanteuse qui s'appelle Annick Cizaruc, qui était une collègue de conservatoire.
Ouais, qui était ma camarade de classe.
D'Ariane.
Donc, toujours la famille et la bande.
Ouais.
Et Ariane est venue nous écouter dans ce petit lieu, dans ce petit cabaret en sous-sol, un petit cabaret en pierre, très très beau. Et voilà, la rencontre c'est faite comme ça.
Donc autour d'Aragon, pour le coup, puisque je crois que vous êtes...
C'était Aragon à l'époque.
C'était Léo Ferré. Voilà. Aragon, c'est en ce moment.
Voilà,
donc c'était Léo Ferré.
Lundi prochain.
Voilà. Alors, on va lui demander de continuer l'histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand vous avez vu et écouté jouer David Venitucci?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simple. C'est que Patrick me disait, depuis un certain temps, il y a un mec qui joue vachement bien de l'accordéon, et puis il fait des spectacles avec Annick et tout ça. Je dis, bon, il me dit, viens, je t'emmène au Connétable. Donc, je suis allée au Connétable. Effectivement, quand je les ai vus tous les deux, d'abord Annick, elle chante comme une déesse, ça me faisait hyper plaisir de l'avoir chantée comme ça. Et puis lui, il faisait des trucs avec l'accordéon, ça, j'avais pas souvent entendu ça. Et puis après tout ça, il y a eu le Covid, on a tous été enfermés comme des lapins. Et quand je suis sortie de tout ça, enfin quand on en est sorti après la deuxième vague, j'ai eu envie de faire un petit spectacle très simple avec mes amis avec qui j'avais joué une pièce avant, et qui s'appelait Paris retrouvé, qui était un spectacle que sur Paris, sur des textes, le fait de retrouver Paris, le fait de remarcher dans la rue. Et je me suis dit, mais ça serait quand même bien qu'il y ait une chanteuse et un musicien. Et donc, j'ai appelé Annick et David, et puis ils sont venus. Et puis, comme j'avais depuis très 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 longtemps dans ma tête l'envie de faire ce spectacle sur Brecht, et ben, j'ai demandé après à David si ça lui disait. Mais ce qui a été vraiment formidable, c'est que David, sur ses poèmes que j'ai choisi, j'ai demandé à David d'écrire la musique. Parce que ce qu'on entend, c'est de la musique de David.
Vous les avez choisis ensemble, ces textes ?
Non, je ne les ai pas choisis avec David, je les ai choisis avec Patrick Bonnel. Enfin, ça a été un truc assez rigolo, puisqu'on collait les textes sur les murs de sa maison à lui. Enfin, et puis on cherchait comment... Je voulais vraiment faire un truc sûr, parce que souvent, Bertolt Brecht, les gens disent « Ah ouais, la distanciation, ah ouais, c'est dur, ah bof !» C'est oui. Comme ça. Je voulais montrer qu'il y a énormément d'humanité en lui, et que souvent en France, on ne sait pas ça qu'on a compris chez Brecht. En France, je trouve qu'on n'a pas très très bien compris Bertolt Brecht. Et voilà, et on a cherché comme ça. Puis alors, en plus, en cherchant, d'un coup, on est tombé sur des trucs qui avaient une actualité qui était un peu impressionnante, quoi.
Et c'est donc à partir des textes que vous avez choisis avec Patrick Bonnel, Ariane Ascaride, que vous, David Venitucci, vous êtes mis à composer. Vous êtes parti des mots.
Oui, je suis parti des mots. Bon, dans le spectacle, il y avait des chansons. Donc déjà ça, vous aviez décidé, déjà Ariane et Patrick avaient décidé de faire des chansons sur certains textes. Donc j'ai commencé par les chansons, en fait. J'ai écrit les mélodies et les arrangements. Et après, on a cherché des couleurs un peu sur les textes. Il y a toute une partie improvisée. Il y a pas mal d'improvisation. Voilà, il y a de la liberté dans ce spectacle.
Mais parce que parfois la musique accompagne, parfois vous soulignez tel ou tel mot avec juste une note en pianotant sur votre clavier, parfois vous êtes à contretemps pour marquer une ironie, une certaine distance, parfois vous créez une atmosphère aussi un peu comme dans un film, vous sortez aussi du soufflet de votre accordéon, un bruit de vague, un bruit de mer. Par exemple, en fait, vous n'êtes pas seulement musicien, David Venitucci, vous êtes metteur en scène, vous êtes metteur en son.
Je suis bruitiste.
Et en musique. Bruitiste aussi, c'est extraordinaire.
Ben, j'essaye d'en tirer le maximum de cet accordéon, de cet instrument qui est incroyable, qui a un potentiel infini, vraiment. Donc voilà, j'essaye de l'utiliser au maximum. Ça peut être de la percussion, ça peut être du souffle. Et il y a tout un langage harmonique, mélodique. Enfin voilà, j'essaye d'en tirer le maximum.
Nouvel extrait du spectacle, vous allez nous le partager toujours en direct sur RFI. David Venitucci et Ariane Ascaride. Il est question d'exil et d'émigrants.
Vous êtes semblable à ces gens qui viennent au bord de la mer, qui veulent la traverser et n'ont qu'une cuillère pour vider l'océan. Ou bien semblable à ces gens qui, tombant du haut d'une tour, s'interrogent dans leur chute comment on pourrait en bâtir de plus haute. Comme si vous viviez une grande époque. Il en est ainsi, d'ailleurs. J'ai toujours trouvé faux le nom qu'on nous donnait. Émigrant. Le mot veut dire expatrié. Mais nous, nous ne sommes pas partis de notre gré pour librement choisir une autre terre. Nous n'avons pas quitté notre pays pour vivre ailleurs toujours, s'il se pouvait. Au contraire, nous avons fui. Nous sommes expulsés. Nous sommes des proscrits. Et le pays qui nous reçut ne sera pas un foyer, mais l'exil. Ainsi, nous sommes là, inquiets au plus près des frontières, attendant le jour du retour, guettant le moindre changement de l'autre côté, pressant de questions chaque nouveau venu, sans rien oublier, sans rien céder, sans rien pardonner, sans rien pardonner. Le silence du Soun ne nous abuse pas. Les cris qui montent de leur camp, nous les entendons jusqu'ici. Nous-mêmes ressemblons à des rumeurs de crimes qui auraient réussi à franchir les frontières. Chacun de nous, marchant souliers déchirés dans la foule, dénonce la honte qui souille aujourd'hui notre terre. Mais nul d'entre nous ne restera ici. Le dernier mot n'est pas encore dit.
Ariane Ascaride et David Venitucci en direct dans VMDN sur RFI. Et comme vous le disiez, Ariane Ascaride, plusieurs dizaines d'années après, parfois près d'une centaine d'années après, les mots de Brecht d'un bout à l'autre du spectacle sonnent toujours profondément actuels. C'est aussi bien le cas quand il parle des émigrants que des réprouvés de la guerre, des pauvres, des malheureux. Cette actualité mordante de Brecht, c'est un peu ce que vous dites d'ailleurs dans le post-scriptum du spectacle.
Ouais.
On peut le donner ce post-scriptum ? Ou il faut le laisser découvrir par les spectateurs ? C'est une toute petite phrase, mais qui résonne encore très très fort à mes oreilles.
Attendez. Oh là, mon Dieu. Je ne sais pas si je l'ai là. Je ne la trouve pas.
Bon, c'est une toute petite phrase, je peux vous la donner, mais je préférerais que vous la disiez dans votre voix à vous.
Parce que je ne le sais pas.
Voilà, oui, mais je n'ai pas votre talent. Alors, vous allez me la répéter après moi, alors, si vous voulez bien.
Si vous voulez.
Même quand je serai mort, je viendrai vous embêter.
Oui, même quand je serai mort, je serai dérangé. Ne dites pas que vous m'admirez. Dites que j'étais dérangeant. Et ça, j'adore qu'ils disent ça. Dites que j'étais dérangeant, parce que j'aime les gens dérangeants. Vous voyez ? J'aime pas les gens qui ne bougent pas. J'aime les gens dérangeants. Les gens dont on dit « Oh là 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 là, il faut toujours qu'il ait quelque chose ou qu'elle ait quelque chose à dire. »
Est-ce que vous êtes quelqu'un de dérangeant ? Est-ce qu'un artiste, précisément, c'est être dérangeant ?
En tout cas, je pense que effectivement, l'art est fait pour vous bousculer, pour vous dans vos certitudes, pour vous secouer comme un shaker. Sinon, ça sert à rien, si vous voulez. Je crois que c'est ça qui est beau dans l'art, c'est que souvent, ça projette au-devant de vous des choses auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Et vous avez du mal au départ à vous habituer, puis en fait, après, vous vous dites « Ah mais oui, bien sûr, l'art, ça rend intelligent. » En gros, c'est ça.
Mais si vous bousculez le public, et je pense que le public du Théâtre du Lucernaire l'est. En tout cas, moi, je l'ai été en sortant du spectacle. Encore une fois, ce n'est pas un spectacle qui rend indemne et qui graisse les gens indemnes. Mais est-ce que vous-même, sur scène, vous êtes encore bousculé ? Est-ce que avec le spectacle vivant, avec la possibilité que vous avez de jouer chaque jour, de dire chaque jour, de partager chaque jour ce texte, vous parvenez encore à être bousculé à chaque fois par les mots de Brecht?
Je crois que je serai bousculé jusqu'à ma mort par les mots de Brecht. C'est pas simplement un spectacle, vous voyez, c'est d'un coup une espèce de communauté. Enfin, pour moi, il y a quelque chose dans une communauté de pensée, quoi. Il me réconforte, c'est incroyable à dire, mais c'est vrai, il me réconforte.
Et pourtant, Brecht, il a vécu les deux guerres mondiales, il a vécu la montée du nazisme, contre lequel il s'est engagé. Hein. Il a même été déchu de sa nationalité allemande en 1935. Ses écrits ont été brûlés. Il a dû partir en exil en Scandinavie, puis aux États-Unis, où il a même figuré un temps sur la liste noire du macartisme. Bref, il a vécu de très sombres temps. Mmh. C'est l'expression que vous avez d'ailleurs reprise dans le spectacle. Est-ce que, toute proportion gardée, vous pourriez dire la même chose de notre époque à nous ? De sombre temps.
Excusez-moi, mais on est dans une époque où on rigole pas tant que ça, quand même,
non.
Vous voyez ?
Non.
Je pense que c'est quand même un tout petit peu compliqué. Il y a quand même beaucoup de gens, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Arménie. En Arménie, en ce moment, il y a des gens qui sont complètement bloqués. Ils n'ont plus de chauffage, ils n'ont plus à manger. Ils sont dans un blocus, ça fait plus de 140 jours maintenant. En Ukraine, n'en parlons pas. Et il y a des tas d'autres parties dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël, là, il y a très peu de temps, et en Palestine, parce que je tiens bien à dire qu'il y a deux pays, d'accord ? Et que je ne rentrerai pas en faisant une discussion politique là-dessus, mais enfin quand même, si vous voulez, au bout d'un moment, ce qui est fatigant, c'est qu'au-dessus d'une multitude de gens qui passent leur temps à essayer de se débrouiller pour arriver à vivre, il y a des gens là-haut qui décident de comment ça va se passer, de tiens, si on faisait bouger une frontière, si on la faisait bouger là, si on la faisait bouger là, et si on mettait des puits de pétrole, et si on les enlevait, et si... c'est pas possible, quoi. Il va bien falloir qu'à un moment, ça s'arrête.
Et pourtant, Brecht, qui... décrit justement ces sombres temps qui étaient les siens, ne manquait pas d'humour. Et ça, c'est peut-être aussi une découverte pour certains spectateurs à Enascaride, parce que Brecht, on a toujours l'impression d'un personnage très, très austère, qui est extrêmement engagé et qui raconte des événements, qui les met en perspective de façon très, très dure. Et pourtant, dans ce spectacle, il y a de temps en temps des petites piques d'humour.
Ben oui, parce que je crois que c'est un théâtre où on ne rit pas est un théâtre dont on doit rire.
Il dit c'est ça lui très qui bien. Le dit.
Hein oui, oui, c'est Brecht qui dit ça. Et c'est vrai. Et je pense qu'il faut... Il dit, on peut parler sérieusement de choses sérieuses et on peut parler aussi sérieusement de choses gaies. Et je crois que c'est vraiment important. Enfin, si vous voulez être un ascète, ça sert à rien. Et il faut, c'est ça que j'aime chez lui, c'est-à-dire qu'il a une manière de montrer un peu ce qu'est l'âme humaine, avec toutes ses facettes. Nous sommes complexes. Et c'est un auteur qui raconte ça. Et de toute façon, c'est pour ça qu'il devient un classique. C'est la même chose que Shakespeare, c'est la même chose que Tchekhov, c'est la même chose que Molière. C'est pour ça qu'ils sont des classiques. Parce qu'ils montrent l'être humain dans sa complexité.
Alors quand Brecht dit... Là aussi, je cite, « L'affaire du théâtre a toujours été de divertir les hommes. Il n'y a aucune contradiction entre divertir et instruire, car il y a, ajoute-t-il, le plaisir d'apprendre. » C'est aussi une profession de foi que vous faites vôtre.
Complètement.
Divertir et instruire en même temps.
Absolument. Vous savez,
le sérieux et l'humour.
Ah oui, oui, non, mais il y a une chose qui m'énerve profondément. C'est quand j'entends des gens dire « Oh, bah oui, mais oh, je suis allée... mais moi, je fais des spectacles pour changer les idées aux gens. » Mais pourquoi vous voulez me changer les idées? Mais ne les changez pas. Au contraire, donnez-moi d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-moi réfléchir. Si c'est pour que j'ai le cerveau qui devienne comme une crêpe, ça ne m'intéresse pas. Mais pas du tout.
Il y a aussi une dimension cabaret dans le spectacle avec... plusieurs personnages, surtout féminins, hein, d'ailleurs, dont vous nous contez le destin. Comment avez-vous choisi ces textes-là? Pourquoi avez-vous choisi de mettre en avant tel ou tel personnage?
Alors, il y a trois personnages féminins. Il y a, une petite prostituée qui s'appelle Evelyn Rowe, qui va en mourir d'être prostituée. Il y a une stripteaseuse qui vient faire son boulot, quoi. Et ça, c'est un truc que j'adore. Parce que chaque fois que je chante cette chanson, je pense à un roman de Simenon qui s'appelle Striptease et qui raconte ça, l'histoire d'une stripteaseuse comme ça dans une boîte de nuit dans les années 50 à Nice. Et où ce qui me plaît dans cette chanson, c'est qu'elle raconte qu'elle a oublié d'acheter le lait, elle va pas pouvoir prendre l'autobus parce que c'est trop tard. C'est-à-dire le concret, la réalité d'une fille, le quotidien d'une fille que des mecs viennent regarder se déshabiller, quoi. Et puis il y a une autre toute petite jeune femme qui fait un infanticide.
Voilà, Marie Farrard. Et vous allez partager une nouvelle fois avec nous ce moment. Ariane Ascaride et David Venitucci, on vous écoute.
Marie Farrard, venue au monde au mois d'avril, mineure, rachitique, orpheline, incolore, jusqu'alors semble-t-il irréprochable, aurait tué, voici comment, un enfant. Elle dit avoir au cours déjà de son deuxième mois tenté dans un sous-sol auprès d'une matrone de le faire partir moyennant deux piqûres, avoir beaucoup souffert, mais ça ne sortit pas. Mais vous, je vous en prie, n'entrez pas en courroux à toute créature. Il faut l'aide de tous. Elle aurait cependant, dit-elle, payé cash ce qui fut convenu. Ce serait donc serré. Aurait bu de l'alcool, mis du poivre dedans, mais ça n'aurait servi qu'à la purger très fort. Son ventre aurait grossi à vue d'œil. Elle aurait souvent beaucoup souffert en lavant la vaisselle. Elle-même, dit-elle, aurait encore grandi. Elle aurait imploré Marie, tant espéré. Mais vous, je vous en prie, n'entrez pas en courroux à toute créature. Il faut l'aide de tous. Mais les prières, semble-t-il, furent pour rien. C'était trop demandé. Quand elle fut plus grosse, la tête à Matine lui tournait. Elle aurait eu des sueurs froides, souvent près de l'autel. Cependant, elle aurait dissimulé la chose jusqu'à ce que son heure arrive, ensuite la surprenne, et ça réussissait, puisque aussi bien personne ne croyait qu'elle, sans attrait, aurait pu fauter. Et vous, je vous en prie, n'entrez pas en courroux à toute créature, il faut l'aide de tous. Le même jour, dit-elle, de très bon matin, en frottant l'escalier, c'est comme si des ongles étaient dans son ventre et griffaient, ça la secoue. Elle parvient pourtant à cacher ses douleurs et pendant le jour, en mettant du linge à sécher, elle est à se casser la tête. Et puis découvre qu'elle est près d'accoucher. Et ça lui fait le cœur lourd aussitôt. Quand elle monte, il est bien tard. Mais vous, je vous en prie, n'entrez pas en courroux à toute créature, il faut l'aide de tous. On s'en va la chercher lorsqu'elle était couchée. La neige était tombée, elle dut balayer jusqu'à 11 heures. Ça dura, longue journée. Ce n'est que dans la nuit qu'elle put accoucher tranquillement. Ce fut, dit-elle, d'un garçon. Il était ce garçon pareil à tous les autres, mais elle n'était pas pareille aux autres mères, bien que... Mais il n'y a pas sujet à railler. Donc vous, je vous en prie, N'entrez pas en courroux à toute créature, il faut l'aide de tous. Ainsi, laissez-la donc raconter davantage ce qui de ce garçon est ensuite advenu. Elle n'en voudrait rien dissimuler, dit-elle, afin qu'on voit comment je suis, comment tu es. Elle dit qu'elle fut à peine au lit, en proie à de fortes nausées, seule et ne sachant pas ce qui se passerait, qu'à ne pas crier, elle se contraignait avec beaucoup de peine, usant, dit-elle alors, de ses dernières forces. Sa chambre étant glaciale aussi, elle aurait pu se traîner jusqu'au cabinet et donc là, quand elle ne sait plus, accouchée sans histoire, vers le matin, elle n'aurait alors, dit-elle, plus une ni quoi ni comme, tout engourdi de froid. Il neigeait dans les cabinets des domestiques. N'aurait pu qu'avec bien du mal tenir l'enfant. Et c'est donc là, entre la chambre et les water. Auparavant, dit-elle, rien. L'enfant se mit à crier et cela l'aurait fâché, dit-elle, tant que de ses deux poings aveugles, sans arrêt, elle l'aurait frappé jusqu'à ce qu'il se taise. Là-dessus, elle l'aurait simplement mis le mort près d'elle dans son lit pour terminer la nuit et caché le matin dans la buanderie. Mais vous, je vous en prie, n'entrez pas en cours à toute créature, il faut l'aide de tous. Marie Farrard, venue au monde au mois d'avril, morte dans la maison d'arrêt à Meissen, fille, mère, jugée, témoigne devant vous des faiblesses qui sont dans toute créature. Et vous, qui dans des lits tout propres accouchez, et qui dites « Béni, votre ventre engrossé, vous ne damnerez pas les faibles réprouvés. » Car grand fut son péché, mais forte sa souffrance quand elle fut partie. On l'a mis dans la terre. Les fleurs poussent, les papillons voltigent au-dessus, si légères, pesant à peine sur la terre. Combien de souffrances fallut-il pour la faire si légère?
Ariane Ascaride et David Venitucci avec son accordéon en direct dans VMDN sur RFI, extrait du spectacle du bonheur de donner, composé des poèmes de Brecht à découvrir actuellement et absolument au Théâtre du Lucernaire à Paris. Pour moi, c'est un peu l'acmé du spectacle. En tout cas, c'est ce moment-là qui a peut-être généré en moi le plus d'émotion, le plus de réflexion. Aussi, je voudrais qu'on le décortique un tout petit peu ensemble.
C'est comme un film, en fait. C'est l'histoire d'une petite bonne femme qui est servante. Je pense tout le temps qu'elle est servante dans un couvent. Et parce que elle a mal à la tête près de l'hôtel quand elle est en train de nettoyer tout ça. Et mais c'est une petite nénette, c'est comme une petite souris, on n'y fait pas attention. Elle s'est fait engrosser, on ne sait pas comment, avec un gars qui est passé et puis qui a plus du tout pensé à tout ça. Et elle est là et elle est enceinte et elle est toute seule. Je trouve que c'est une histoire insensée parce que c'est une histoire qui peut tellement encore arriver aujourd'hui et qu'on peut effectivement. Enfin, ça existe encore, malheureusement, qu'on retrouve des bébés dans des poubelles de nos jours, au XXIe siècle. Et qu'au XXIe siècle, il y ait des États qui décident d'interdire l'avortement. Ça, si vous voulez, pour moi, il n'était pas possible de ne pas mettre ce texte-là dans mon spectacle. Parce que c'est un scandale, c'est des morts futures. Parce qu'il y a des filles qui vont continuer à se faire avorter n'importe comment et qui vont en mourir. Et ça, c'est pas possible.
Alors, on est, semble-t-il, dans la tradition de la chanson réaliste, David Venitucci, l'accordéon. C'est un instrument qui s'y prête particulièrement.
Oui, c'est vrai qu'il y a une histoire entre l'accordéon et la chanson au sens large. C'est l'instrument pour accompagner la chanson. Il y a toute une tradition. Oui.
Et là, vous avez vraiment utilisé, pas toutes les ressources, pour faire une très grande gamme, sans mauvais jeu de mots, de ressources de votre instrument. Donc, vous tapez sur le, je sais pas comment on appelle ça,
sur le clavier,
mais même parfois à côté. Donc, parfois c'est réellement de la musique, parfois on est dans le bruitage, parfois on est dans l'illustration. Par exemple, le passage sur les nausées du personnage, c'est assez extraordinaire parce que bon, évidemment, on est à la radio, mais quand on vous voit sur scène, et là, quand je vous ai vu encore il y a quelques instants dans ce studio, on a presque l'impression que les nausées du personnage, vous les ressentiez dans votre corps, à vous, David Venitucci. Le jeu, c'est pas seulement quand on joue de la musique, c'est aussi quand on joue un personnage à travers la musique.
Bien sûr, on est impliqué, de toute façon. Ce texte est particulier parce que c'est vraiment improvisé, parce que du début jusqu'à la fin, il y a cette petite mélodie qu'on retrouve, qu'on a cherchée ensemble avec Ariane. Et après, le reste, bon, c'est vraiment sur l'instant, c'est en fonction du moment, de l'interprétation d'Ariane. Donc voilà.
Comment vous avez travaillé tous les deux, justement, pour faire coïncider, pour faire coller, alors avec ce travail très très fin quand même sur le texte. Vous parliez à l'instant d'improvisation, mais on a du mal à croire parce que c'est quand même très réfléchi, c'est pas purement spontané.
Il y a une trame, mais bon, la trame, voilà, je peux en sortir suivant l'inspiration. Si je suis pas inspiré, je suis un peu plus sur les rails, mais...
Donc d'une représentation à l'autre, ce n'est pas la même chose.
Il y a des choses qu'on retrouve, et encore, il y a des choses que j'ai trouvées au fil des représentations et que j'ai gardées, et puis voilà, et puis ce ne sera pas la même chose la semaine prochaine, et c'est très bien comme ça.
Ariane Ascaride ?
C'est comme danser le tango. Voilà. Si vous allez danser le tango dans un club de tango, vous allez tomber sur un danseur que vous ne connaissez pas du tout, mais simplement, vous êtes dans la même... optique, enfin je sais pas, c'est pas exactement le mot optique, mais on est là, on se sent, vous voyez ?
Mutuellement.
Ah oui. j'écoute, j'ai toujours une oreille qui est comme ça, là mon oreille gauche, elle est très développée, elle est du côté de David, et même, il m'aide par moments, dans la manière dont il joue, à interpréter, à dire les textes. Oui.
D'une façon très, très, très expressive. Alors, cette expressivité que vous partagez avec le public, elle passe par la voix. On l'a entendu évidemment à la radio. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elle passe aussi beaucoup par les gestes. Elle passe surtout par votre visage qui est quasiment une pâte à modeler d'un bout à l'autre du spectacle. C'est assez extraordinaire. Là aussi, la gamme d'émotions que vous pouvez faire passer avec votre visage. Alors, sur la scène du Lucernaire, vous êtes tous les deux assis sur des chaises hautes, face au public, avec des micros. Là, dans le studio 1 de RFI, vous avez à peu près la même configuration.
Pareil, c'est très gentil, d'ailleurs.
Mais alors, ne pas se déplacer, Ariane Ascaride, ne pas pouvoir utiliser le bas de son corps, est-ce que ce n'est pas une contrainte, tout de même ?
Eh bien, oui, c'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui me plaît, en fait. Parce que du coup, tout est là en haut, et encore, ne croyez pas que je fais rien avec mes pieds, parce que effectivement, vous regardez ma tête, mais avec mes pieds, je fais des trucs, mais qui sont des petits trucs. Mais et moi, j'aime beaucoup, par exemple, moi, j'aime beaucoup la radio, et je trouve que la voix, c'est une chose, c'est mon instrument de musique. Moi, c'est mon instrument pour, voyez, pour émettre des sons, pour dire des choses, et plus le temps passe, c'est aussi pour ça que je suis très contente de faire ce spectacle. Plus le temps passe, plus je conçois mon métier d'une manière musicale. Ma voix est à mon service, mais moi je suis au service de ma voix. Et donc là, je suis assise, et je suis sûre que l'émotion, je l'espère, l'émotion que j'arrive à faire passer ne serait pas la même si j'étais dans une mise en scène. Ça serait, c'est horrible ce que je vais dire, mais je le pense, moins sincère. Ça serait plus construit. Tandis que là, je suis à nu, on est assis tous les deux, comme ça, et puis ça part, Et c'est un peu chaque fois l'épreuve du feu, mais je crois qu'il faut se remettre en, faut se remettre en cause tout le temps. Il faut toujours chercher et là, en étant assis comme ça, on peut le faire.
Alors vous êtes sur la scène du Lucernaire pour ce spectacle, Ariane Ascaride. Vous êtes aussi sur le plateau de la Scala à Paris pour un autre spectacle qui rend hommage à une autre femme d'engagement, Gisèle Halimi, spectacle prolongé jusqu'au 15 avril, mise en scène de Léna Pogam avec également Philippine Pierre-Brossolette, spectacle qui s'appuie sur le livre de ma consoeur Annick Cogent. Pour vous, en quelques mots, qui était Gisèle Halimi ?
Une héroïne. Une héroïne, une femme d'un courage incroyable. Parce que donc le spectacle part de son enfance jusqu'à pratiquement la fin de sa vie, quoi. Mais c'est une fille avec une force incroyable, incroyable. D'où elle sort, où elle est arrivée, ce qu'elle a fait, être avocate des combattants du FLN en 1953-54. Vous voyez, 54-55, c'était pas évident être une fille. Et après, c'est grâce à elle qu'il y a eu une loi sur l'avortement, plus que c'est le procès de Bobigny. Et après, qu'il y a une loi qui change sur le viol, parce que c'est un autre procès en 1974, à Aix-en-Provence. C'est une héroïne, c'est une femme extraordinaire. J'ai que ça à dire, c'est un exemple pour moi. Et il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres. Hein. Mais voilà. Et ce qui me touche beaucoup... Bon, ce qui me touche énormément, c'est que fur et à mesure que nous jouons, eh bien, au début, il y avait des dames qui avaient fait partie des 343 pour l'avortement et tout ça. Et puis, de plus en plus, il y a, enfin, ça fait un moment maintenant, mais de plus en plus, il y a des jeunes filles et des jeunes gens et des garçons et qui parce qu'il y a un trou, où on n'a plus parlé de Gisèle Halimi, là. Pendant 15, 20 ans, on n'en a plus beaucoup parlé. Puis là, pouf, alors il y a des gens qui découvrent Gisèle Halimi. Et ça, c'est merveilleux.
Donc, deux spectacles en même temps sur les scènes parisiennes. Ouais. Et en plus, vous êtes à l'affiche au cinéma, puisque vous êtes une des voix du film d'animation d'Alain Huguetto et Alexis Galmo, Interdit aux chiens et aux Italiens.
Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramoneurs, chiffonniers, les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été « fils de pute de macaroni ».
Pourquoi ils ont écrit ça, papa ?
Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends ? Allez les enfants, on y va.
Voilà, et vous êtes la voix de Cesira, la grand-mère du narrateur. C'est une histoire d'exil, une histoire de racisme aussi, qui rappelle un peu la vôtre, celle de votre famille ?
Bah oui, puisque moi je suis issue de l'immigration italienne, mais de l'immigration italienne du Sud. Tandis que Alain est de l'immigration italienne du Nord. Oui, bah bien sûr, pas moi, mais mon père s'est fait traiter de macaroni, c'est bien sûr.
Alors on attend aussi avec impatience le nouveau film de Robert Guédiguian et la fête continue avec votre vieux complice Jean-Pierre Darroussin, fois encore dans la ville de Marseille. Quant à vous, David Venitucci, je signale, et on en disait un tout petit mot tout à l'heure, que vous êtes donc au Connétable, donc cette très belle salle parisienne avec Annick Cesaruc et cette fois-ci donc des textes d'Aragon, c'est toujours une création musicale originale, hein. Donc rendez-vous les 6, 13, 20, 27 février et mars, et oui c'est les mêmes dates hein, pour février et mars, miracle du calendrier, rendez-vous aussi les 3 et 10 avril. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir sur RFI dans VMDN. Je rappelle que Du bonheur de donner est à l'affiche au théâtre du Lucernaire à Paris. À propos de cinéma, autre film, alors là on est très très loin d'Interdit aux chiens et aux Italiens, le genre est assez différent mais il est aussi intéressant parce que c'est un film africain, Saloum, réalisé par Jean-Luc Herboulot et produit par Pamela Diop et la société de production sénégalaise Acme, un long métrage qui est une plongée dans le Saloum, une région du Sénégal où le réalisateur convoque de nombreux genres différents du 7e art pour créer sa propre identité. En fait, on est un petit peu à la naissance du cinéma de genre africain, l'aura du lieu.
Chez nous, la vengeance est comme un fleuve.
Ah ! Les premières minutes du film trompent parfaitement le spectateur. On croit regarder un western africain, ou plutôt un southern, avec ces trois mercenaires qui se font appeler les hyènes de Bangui, Chaka, Rafa et Minuit. Chargé d'exfiltrer un narcotrafiquant de Guinée-Bissau en proie à un coup d'État jusqu'à Dakar, leur petit avion tombe en panne en plein milieu du Saloum.
Le ciné Saloum.
Région humide du sud-ouest du Sénégal et où la productrice du film Pamela Diop a une histoire familiale.
La meilleure des planques pour des mercenaires en cavale.
Après avoir soigneusement enterré leurs lingots d'or volés au passage, les mercenaires choisissent de se fondre dans un camp de vacanciers avec d'autres touristes, le temps de trouver résine et carburant pour pouvoir repartir.
Qu'est-ce qui vous amène dans notre magnifique région du Sine Saloum ?
Sauf que, on se rend bien vite compte que malgré les codes du western très présents, la raison de la présence des hyènes de Bangui dans le Saloum va beaucoup plus loin.
Police.
Un huis clos sous tension se met en place avec Awa, jeune sourde et muette très secrète, un policier possiblement aux trousses des hyènes de Bangui ou encore le gérant du camp. Mais finalement, c'est Chaka qui cache le plus lourd des secrets et on comprend que la venue des mercenaires dans ce lieu singulier n'est pas si hasardeuse que ça et qu'une histoire de vengeance plane.
Qu'est-ce qui s'est passé ici ?
C'est quoi cette merde ?
À cela s'ajoute une bonne dose de fantastique, voire de code du film d'horreur. Il se passe des choses bizarres dans le Saloum, où il ne vaut mieux pas contrarier les esprits qui y rôdent.
Ça a commencé.
La caméra au point accentue au fur et à mesure la tension du spectateur. Bref, un mélange surprenant et très fort de plusieurs genres, le tout au service d'une histoire ancrée dans un contexte historique et politique africain réaliste. Tout cela fait de Saloum un film novateur, mais ce n'était pas gagné. Le long métrage a été tourné en 2019, avant le Covid, avec très peu de moyens, pas de musique ou d'effets visuels. Il a pu aboutir en séduisant notamment le festival de Toronto en 2021, grâce à son identité forte. C'est Alexis Perrin, le coproducteur, qui le dit.
C'est l'énergie du film, l'histoire avant toutes ces mercenaires qui sont un peu des héros atypiques qu'on a, nous, rarement vus au cinéma, en tout cas venant d'Afrique centrale. Bien sûr, les codes aussi du genre qui sont, entre guillemets, toujours très divertissants. On passe du western à une sorte de thriller. On sent que sur ce camp, ces trois mercenaires arrivent avec leurs lingots d'or qu'ils ont cachés pour faire profil bas, il plane une sorte de mystère et le film va ensuite partir vers plutôt du fantastique. Donc il y a tout ce cocktail de codes de genre qui sont mélangés par Jean-Luc Herbulot, le réalisateur, qui ont créé une vraie curiosité, en tout cas des programmateurs et ensuite des équipes de post-production françaises qui étaient très très excitées de travailler sur le film, sur les effets sonores, sur les effets numériques et sur la musique.
Une musique composée par le français Rex Sider, puissante, vibrante, elle ne lâche pas le spectateur et joue un rôle à part entière dans ce film, porté également par les acteurs Yann Gaël, Roger Salah et Mantorba, qui jouent Chaka, Rafa et Minuit. Saloum se revendique comme le premier southern de l'histoire du cinéma, façon un peu provocatrice d'ouvrir la voie et d'inciter le cinéma africain à créer sa propre identité.
On n'est pas seul.
Le film Saloum de Jean-Luc Herbulot, actuellement dans les salles en France. C'était le rat du lieu pour VMDN. Dans une poignée de secondes, l'info reprend ses droits sur RFI. Vous avez rendez-vous bien sûr avec le journal et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.